Donc mes grands-parents étaient émigrés d'Algérie. C'est une bonne arabe, elle est gentille, elle crie pas trop fort. Ils me ramenaient aux côtés, ah ouais, t'es pas comme nous parce que t'es pas blanche, toi, t'es un peu l'étrangère. Alors en plus, elle est bourgeoise, donc ça va, on se reconnaît en elle. Mais en plus, elle est racisée, donc combo parfait parce que nous, les racisés, on aime trop, c'est trop stylé. De plus en plus, j'assume qui je suis. Et donc j'assume d'être algérienne et d'avoir une culture maghrébine. On n'a pas choisi qui on était, mais on peut choisir d'utiliser cette émotion de colère et de tristesse pour nous faire une force, pour faire un moteur pour avancer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour Louise, comment vas-tu?
Salut, ça va?
Merci beaucoup d'être venue jusqu'à Nantes pour me voir, ça me fait trop plaisir.
Bah, pas de problème, moi aussi ça me fait plaisir.
Donc là, on est bien, on est prête pour enregistrer, on a été manger une galette et une crêpe avant, donc
oui.
Tout va bien. On est motivés. Donc du coup, nous, on a déjà eu le temps de pas mal discuter avant et de faire connaissance. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent?
Alors, je m'appelle Louise, j'ai 24 ans. Alors, actuellement, je suis babysitter, mais je travaille pour reprendre une formation de libraire l'année prochaine sur Paris, en alternance, parce que je voudrais devenir libraire. Et j'habite à Rennes actuellement.
Trop bien, super. Bah, merci beaucoup pour ces petites informations. Toi, c'est quoi tes passions dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire
Alors, je m'intéresse beaucoup donc à la lecture forcément, notamment des essais. J'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup les lectures de romans pour ados. J'aime bien le dessin aussi, la danse, le sport, chiller avec mes amis. Voilà, ce genre de choses.
Trop bien, top, ça nous donne un petit aperçu de ta personnalité, donc super. Alors aujourd'hui, tu es venue pour parler d'un sujet très intéressant. Donc pendant cet épisode, on va parler de métissage, de classe sociale, de féminisme, de sentiment d'appartenance et de déracinement, mais aussi de racisme et de misogynie. Beaucoup de choses à dire du coup.
Exactement.
Du coup, pour commencer un petit peu, j'aimerais bien qu'on parle un peu de tes origines, que tu nous présentes justement bah, quelles sont tes racines et ton rapport avec tes différentes cultures.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis née donc de deux parents français, mais ma mère a des origines algériennes par mes grands-parents qui étaient algériens. Donc, mes grands-parents étaient émigrés d'Algérie. Ils sont arrivés en France dans les années 60 et donc je suis en soi moitié algérienne bah, par eux et moitié française donc par la famille de mon père qui lui pour le coup il est né à côté de Lyon très français. Donc voilà et j'ai la peau mate et les cheveux très noirs.
Ok, donc ça se voit que tu es métisse et ça va justement être un sujet parce que quand ça se voit, ça implique beaucoup de choses, notamment quand on est une femme. Voilà.
Oui, tout à fait. Surtout que je m'appelle Louise Mélantois. J'ai un prénom extrêmement français, mais je n'ai pas une apparence très française. Donc, exactement, ça se voit.
On a parlé de tes origines et au niveau de ta classe sociale, du coup, parce que c'est aussi un sujet dont tu vas nous parler, est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Oui, tout à fait. Mes deux parents sont cadres. Mon père est dans le commerce, ma mère aussi est dans le commerce. Elle s'est un peu surclassée parce que de base, mes grands-parents avaient pas de métier, parlaient pas français. Donc elle, c'est la seule dans la famille qui a fait des études. Donc moi, j'ai totalement baigné dans une culture bourgeoise parce que mes deux parents étant cadres, je suis née dans une classe assez privilégiée. Voilà.
Ok, très bien. Donc du coup, il y a un gros sujet. Enfin, toi, ce que tu m'as expliqué un peu quand on a discuté avant pour préparer l'épisode, c'était justement ce sentiment en fait de pas vraiment être à ta place. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Alors oui, en fait, ayant traîné avec beaucoup de personnes blanches, classe bourgeoise, parce que surtout quand je suis arrivée vers le lycée, je suis allée dans un lycée privé, c'est vrai que j'avais les codes bourgeois, j'avais la façon de parler, la façon de se comporter, mais comme j'étais pas blanche, il y avait un peu ce côté, par des petites questions, par des petits moments, ils me ramenaient au côté, ah ouais, t'es pas comme nous parce que t'es pas blanche, toi, t'es un peu l'étrangère. Et quand j'ai commencé aussi à avoir des amis de classe prolétaire et surtout des personnes racisées de classe prolétaire, il y avait ce côté où enfin je pouvais un peu me reconnaître dans ce qu'ils vivaient, dans notre culture aussi, parce que malgré tout j'ai une culture algérienne par mes grands-parents et par ma mère un peu aussi. Donc on pouvait se reconnaître sur des points, mais il y avait quand même ce côté où j'avais pas du tout les codes, j'avais pas du tout la façon de parler, la façon de se comporter. Donc je me sentais pas non plus tout le temps très à l'aise avec les références, avec leur façon d'être, parce que j'étais pas comme eux en fait dans mon éducation, c'est pas pareil. Donc il y avait un peu l'espèce de cul entre deux chaises que j'ai beaucoup ressenti en fait dans les milieux avec lesquels j'ai traîné ou avec les personnes que j'ai traînées, ouais.
Ok, et tu nous parlais aussi bah, justement donc de ton rapport à tes origines. Donc comme tu nous disais, tu as des origines algériennes. Toi, est-ce que tu as pu c'était enfin, quel est ton rapport en fait toi avec ces origines-là? Est-ce que tu les revendique plutôt, est-ce que tu essaies de les lisser? Enfin, c'est quoi ton rapport avec ses origines?
En fait, ça va vraiment dépendre bah, déjà des moments de ma vie et des personnes avec qui je suis, en fait.
Ouais.
C'est vrai que pendant une grosse période de ma vie, surtout bah, ma mère en soi, elle a vraiment essayé de white passer un peu. Elle a vraiment essayé de gommer le fait qu'elle était algérienne. Elle voulait vraiment se surclasser et aussi être un peu admise par les blanches. Et du coup, elle nous disait souvent, vous êtes bien française et tout. Non, non, vous n'êtes pas algérienne et tout. Mais en même temps, bah, c'était plutôt dans sa famille, donc mes tantes, mes cousines qui venaient de cité, elles avaient ce côté, on est fiers d'être algériens, nous, on gueule fort et tout, on a un caractère. Et c'est vrai que je savais pas trop quoi faire. Et surtout qu'en soi, dès que je parlais de mes origines dans les milieux plutôt blancs et bourgeois, il y avait ce côté ah ouais, ok, curiosité un peu malsaine, genre qui arrivait, enfin ça se voit, enfin plein de questions qui me mettaient mal à l'aise. Mais en même temps, bah, c'est aussi une partie de... Est-ce que c'est censé, tout ce que je dis? Oui, c'est une partie de mon enfance aussi, le fait d'être algérienne. Et. Du coup, je savais pas en fait comment en fait dealer avec ça parce que d'un côté j'avais l'impression qu'on plaçait un peu une curiosité malsaine sur moi, d'un autre côté c'était quelque chose qui faisait partie de moi, de mon enfance auquel j'étais attachée parce que par mes grands-parents ou par la famille de ma mère, en fait il y avait vraiment ce côté très solidaire que j'ai vécu quand j'étais plus jeune dans la famille de ma mère, qui faisait que j'avais pas totalement envie de renier cette partie de moi. Mais quand je suis avec des personnes assez militantes ou racisées, bah tout de suite il y a ce côté pas du tout curiosité, il y a ce côté ah ouais cousine et tout, t'es comme nous. Et c'est vrai que ça me faisait un peu plaisir. Donc en vrai ça va vraiment dépendre. Bah maintenant j'ai un peu grandi quand même et de plus en plus j'assume qui je suis. Et donc j'assume d'être algérienne et d'avoir une culture maghrébine. Mais c'est vrai que c'est plus aussi dans les milieux militants que je vais réussir à l'assumer avec des amis en fait qui vont totalement comprendre les enjeux d'intersectionnalité et de racisme qui font que j'arrive de plus en plus à assumer en fait qui je suis et cette partie de mon enfance qui est à moi et qui fait partie de moi. Donc voilà.
Ok, très intéressant. Et justement, tu nous parlais de ta mère un peu et de son rapport à tout ça. Ta mère, du coup, en fait, elle a fait un peu un. Enfin, elle a été transfuge de classe, en fait, parce que du coup, elle a commencé. Enfin, elle est arrivée avec des parents immigrés et tout. Et finalement, aujourd'hui, elle est cadre, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu sais de l'histoire de ta mère, justement, sur comment est-ce qu'elle est arrivée en France, comment elle s'est assimilée à la culture? Enfin, voilà, si tu peux nous donner un petit peu de contexte là-dessus sur son histoire, qui est aussi la
Bien
tienne,
sûr.
du coup, au final.
C'est vrai, c'est vrai. Bah en fait, du coup, c'est mes grands-parents qui sont arrivés donc en France dans les années 50-60. Donc c'était pas encore l'indépendance qui a été déclarée, je crois, en 62.
Ouais, il me
Donc
semble.
voilà, là c'était encore la colonisation. Donc ils sont arrivés vraiment rien à voir avec tout ça entre guillemets. Ils voulaient vraiment arriver en France, pour trouver un boulot, tout ça. Et ils sont arrivés donc dans Paris. Mon grand-père, il voulait pas être dans les cités. Il voulait vraiment s'intégrer en fait auprès des Blancs. Et donc ma sœur. N'importe quoi. Ma mère, c'est la plus grande, avec mon oncle en soi, mais c'était elle un peu la femme en plus, la plus grande, donc c'était un peu la grande sœur. Et mes grands-parents parlaient pas français, ils écrivaient pas aussi français. Je crois même pas qu'ils savaient écrire en fait. Et c'est vrai que ma mère, en fait, c'était un peu la traductrice pour tout. Donc, elle avait vraiment, de très très jeune, elle a eu cette charge mentale de traduire pour mes grands-parents en français, de leur apprendre un peu le français. Et surtout qu'elle parlait un peu arabe, enfin, même carrément arabe chez elle. Et après, à l'école, bah, elle devait parler français, mais elle avait du mal. Et elle a vécu pas mal, en fait, de moqueries de la part des enfants parce qu'elle était, elle parlait pas forcément bien français et qu'elle n'était pas blanche comme eux. Et surtout qu'elle avait en plus cette charge mentale de gérer ses parents alors que c'est pas censé être elle qui doit les gérer,
Oui.
c'est censé être l'inverse. Donc je pense que ça a participé au fait qu'elle a du mal à totalement embrasser ses origines. Et en fait, c'est la seule dans sa famille, nous qui sommes 5 enfants derrière, c'est la seule déjà qui est partie de Paris. Ils sont tous restés un peu autour. Et c'est la seule qui a fait des études longues. Elle a fait la fac de langue et après, elle est partie en master à l'étranger. Elle a fini dans le commerce. Et après, elle a rencontré mon père et elle s'est posée avec lui, tout ça. Mais c'est vrai que c'est la seule en fait qui a vraiment voulu, je pense, s'en sortir, comme elle aime bien dire, se surclasser, tout ça. Et du coup, ça participe au fait qu'elle ne veut pas assumer son passé, parce que je pense que ça, elle veut vraiment montrer qu'elle s'est intégrée, quoi. Donc voilà, et moi dans tout ça, c'est vrai que dans la famille de ma mère, comme ils sont tous d'une classe prolétaire un peu autour de Paris, il y avait vraiment cette différence que elle voulait nous montrer avec mon père, enfin l'éducation qu'elle voulait nous inculquer avec entre guillemets l'aide de mon père, et l'éducation qu'on avait quand on allait au repas de famille, quand on allait voir la famille de ma mère, où c'était vraiment complètement différent, complètement lâche, et c'était trop bien,
Oui.
et c'est toujours trop bien, mais voilà quoi.
Oui, elle a vraiment voulu s'extraire de son milieu, quoi. C'est vraiment ça,
Exactement,
ouais.
c'était vraiment ça, genre vraiment s'extraire de son milieu et vraiment pas passer pour la rebeu en fait. Et je sens bien que quand elle est face à la famille de mon père, elle n'est pas toujours très à l'aise parce que pour le coup, la famille de mon père va un peu la fétichiser en mode je me rappelle très bien, genre d'une fois où ça m'avait marqué, ma mère elle fait pas souvent des couscous, mais des fois elle en fait. Et genre la famille de mon père, ils aiment trop dire oh là là, mais le couscous de Nadia il est incroyable et tout, genre comme si, genre forcément, comme elle est rebeu, tu vois, ça va
Oui.
être son couscous. Voilà, ça n'a aucun sens. Et je vois bien que ma mère, ça la met mal à l'aise. Enfin, genre, je pense que voilà, ça la met mal à l'aise, tout ça. Elle prend sur elle, mais derrière, elle est vexée. Et je pense que ça lui ramène des conditions où on l'a traité un peu de sale rebeu et tout à Paris, quoi.
Ok. Et toi, du coup, donc ta mère, là, tu nous parles du fait qu'elle a quand même subi de la fétichisation, de la discrimination. Enfin voilà, tout ça, au final, c'est quand même, ça fait quand même partie du racisme, même si des fois on a l'impression que c'est moins raciste de parler de couscous que d'insulter la personne, mais ça peut l'être quand même en fonction de comment c'est fait. Toi, du coup, est-ce que tu as expérimenté du racisme en tant que femme maghrébine qui évolue plutôt dans un milieu blanc?
Oui. Oui. Alors moi, donc quand je suis arrivée au collège et que j'ai commencé surtout à prendre des formes, tout ça, à grandir. Et du coup aussi, j'avais beaucoup d'acné au collège. Après, j'en ai moins eu parce que j'ai pris les traitements, tout ça. Mais c'est vrai que, surtout qu'après, quand je suis arrivée plus au lycée, du coup, j'avais moins d'acné, que j'avais plus des formes et que j'étais dans un lycée privé, des hommes blancs, en fait, je voyais qu'ils commençaient à me regarder. Au début, ça me flattait. Et après, genre, quand je parlais avec eux et tout, certains me disaient, ouais, mais c'est normal qu'ils parlent avec toi, ils aiment trop les filles à la pommade. Ouais, non, mais c'est normal, t'es ton style de fille parce que toi, t'as la pommade. Et je suis en mode, quoi? Ok, genre, ils me considèrent pas comme ma propre personne. Et aussi, il y avait ce côté, genre, beaucoup de femmes blanches ou de féminisme blanche, même, tu vois, me disaient, quand tu sais, des fois, t'as des moments entre copines où tu te dis, oh, j'aime même pas, je suis moche, et tes copines sont là, mais non, et tout. Et là, elle me disait, mais non, mais toi, t'as la pommade, en plus, t'as trop de chance et tout. Et ça faisait trop, genre, la pommade, c'est trop stylé, tu vois. Et ça, je savais pas trop si ça me faisait plaisir ou si ça me mettait mal à l'aise parce que, genre, j'avais pas envie d'être vue que par ça, tu vois. J'avais envie d'être une personne belle par sa personnalité, tu vois. Et donc, il y avait aussi ce côté, genre, comme les blancs, ils ont pas l'habitude de voir des personnes racisées. Comme moi, genre, j'avais leur code et qu'en plus j'étais racisée, il y avait un peu ce côté, genre, goal, tu vois, en mode, alors en plus, elle est bourgeoise, donc ça va, on se reconnaît en elle, mais en plus, elle est racisée, donc combo parfait, parce que nous, les racisés, on aime trop, c'est trop stylé, tu vois,
Trop exotique.
voilà, trop exotique et tout. Et en plus aussi, il y avait ce côté très gênant où en fait, moi, j'ai les yeux en amande, tu vois.
Ouais.
Et souvent, les gens croyaient que j'étais asiatique, alors que pas du tout. Mais
Ouais.
c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté limite, ils vont s'en battre les couilles de mon origine, ils vont juste prendre le côté exotique, comme tu dis, et ils vont dire, Ah mais non, mais je croyais que t'étais asiatique. Ah mais non, mais je croyais que t'étais indienne. Genre, mais pas du tout. Enfin, je suis algérienne et genre, en fait, en Algérie, il y a plein de façons d'être algérien. Tu peux être aussi très blanc, tu vois. Et en plus, c'est drôle parce que je ressemble à ma grand-mère, du coup, qui est algérienne. Elle avait aussi les yeux en amande, tu vois. Donc vraiment, c'est un truc de fou. Enfin, les blancs, en fait, font pas la différence. Et c'est vrai que bah ça m'a aussi mis mal à l'aise parce que bah même on m'appelait la Nouachi, tu vois.
Ah oui, sympa.
Voilà, c'est ça, mais non, enfin, rien à voir avec l'Asie, tu vois, et même pour les personnes asiatiques, enfin, c'est tellement horrible.
Ouais, c'est horrible. Le
Et
racisme
ouais.
pour les personnes asiatiques aussi, c'est un sacré truc.
Bah, c'est ça, en fait, c'est totalement ça. Et du coup, bon, je l'ai un peu mal vécu parce que surtout, je me sentais vraiment, surtout que j'avais l'impression que la fétichisation, ça pouvait aussi passer par ah, mais t'es de quelle origine? Parce que ça se voit que t'es pas française. Ou même aussi dans ma façon de parler, je sais que je suis assez stressée. Et c'est vrai que des fois, on m'a dit, ouais, ça se voit quand tu parles que tu fais pas française. Mais du coup, enfin, c'est plus.
Je
Oui.
suis française depuis le début, je suis là,
Oui,
laissez-moi.
non, mais c'est ça, exactement. Genre. Mais enfin, en fait, je le prenais grave mal parce que je me disais, mais en fait, c'est parce que je suis stressée que je parle un peu de manière un peu décousue, enfin, que je suis un peu pas à l'aise, mais c'est pas parce que je suis pas française. Enfin, c'est horrible aussi de ramener ça à la langue, enfin, tu vois. Et j'avais un peu l'impression que les personnes qui disaient ça, ils se rendaient même pas compte que c'était hyper raciste et ils avaient l'impression que ça me faisait plaisir.
Ah ouais.
Genre, tu sais, je me rappelle de soirées où il y avait vraiment des meufs qui venaient me voir en mode ah, mais en fait, t'es de quelle origine? Et t'avais d'autres gens qui regardaient en mode.
Ouais.
Mode ouais, vas-y, on va t'écouter. Là, c'est trop l'attraction et tout, genre trop gênant. Enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir des projecteurs sur moi, et en plus, bah, étant du coup un peu bourgeoise, étant aussi bah, par mon père, j'avais une culture française, bah, j'étais pas non plus toujours très à l'aise de parler de ma culture maghrébine, sachant que ça fait partie de mon enfance et que c'est un peu précieux, tu vois. Donc, c'était vraiment gênant et compliqué de dealer avec ça. Et ouais, du coup, genre, ça faisait trop. Ah oui, c'est vrai que je suis racisée et c'est vrai que je suis pas comme eux, tu vois. C'est que quand j'étais dans des groupes de filles et tout, où tout le monde était blanc et qu'elle me demandait ça d'un coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, elle me ramène au fait que je suis pas comme elle, tu vois. Ouais.
Mais il y a un truc aussi là dans ce que tu m'as dit qui m'a interpellée, c'est un peu, j'ai l'impression que tu étais un peu genre la bonne rebeu, genre la rebeu qui est intégrée, qu'on aime bien parce qu'elle nous ressemble quand même. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre un peu comme
Si.
s'il y avait une dualité entre les bons arabes, je mets des gros guillemets, attention à ce que je dis, hein.
T'inquiète.
Les bons, je le dis pour les gens qui ne me voient pas, je mets des guillemets, je cite, les bons arabes bien intégrés qui sont bien dans une culture française, etc., versus les arabes de cité, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'il y a vachement ce truc.
C'est trop ça, vraiment, je comprends totalement ce que tu dis, t'inquiète pas, et je suis trop d'accord, genre vraiment, il y avait ce côté, ouais, toi, ça va, t'es pas trop algérienne, genre, enfin, ils disaient pas ça comme ça, mais c'était un peu genre, ouais, ça se voit pas trop, toi, genre, ça va, tu sais, genre, bah, merci, genre, ok, genre, en fait, c'est ça, il y avait vraiment ce côté, c'est comme s'ils se rassuraient, tu vois, c'est comme s'ils disaient, ouais, c'est bon, je suis pas raciste, parce que j'ai une amie, c'est Louise, c'est bon, genre, et puis elle, ça va, elle est racisée, mais genre, bah... Ouais, non, pas trop, quoi. Genre, en soi, et même tu peux être super blanc aussi, et genre être racisé. Enfin, tout ça, c'est des mélanges d'identité. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que je ressentais ça des fois. C'est vrai que je sentais ce côté où j'étais la bonne arabe et qu'il y avait ce côté que bah moi, ça allait parce que j'étais pas une prolo qui criait tout le temps ou qui se tenait trop mal. Enfin, pareil, hein, genre, gros guillemets, hein, c'est pas forcément mal de faire ça, de se comporter comme ça. Mais c'est vrai que moi, il y avait ce côté, comme j'avais des codes bourgeois, il y avait ce côté, bon, elle, ça va, genre. On peut, c'est une bonne arabe, elle est gentille, elle crie pas trop fort et tout. Bah tiens, justement, ça me fait penser à une idée. Bah de base, moi, je parle assez fort, mais parce que, en fait, pour le coup, là, ma mère, elle m'a beaucoup dit, ouais, non, mais chez moi, on criait aussi dans ma famille, genre en mode quand elle était petite, et mes grands-parents criaient, tous mes oncles et tantes du côté de ma mère, ils parlent fort, en fait, on dit crier, mais genre. Tu vois, et c'est vrai que bah, mon père, il est pas du tout comme ça, et ça va vite le saouler, surtout quand il va dans la famille de ma mère et tout, où maman, ça va crier fort. Et c'est vrai que là, pour le coup, on m'a toujours dit, c'est la culture maghrébine, c'est la culture de la Méditerranée. Nous, on parle fort, on a, entre guillemets, un sale caractère, tu vois. Et genre, c'est vrai que bah, très vite, on me disait, mais parle moins fort, Louise, et tout, genre, entre guillemets, sois un peu blanche, là, genre, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que bah, dès que, genre, entre guillemets, mon arabeness s'en ressortait, genre, on me disait, reste à ta place, tu vois. En gros, j'avais pas trop le droit d'être cette identité un peu plurielle dans des milieux blancs et bourgeois, ouais, c'est vrai.
Et t'as vu la différence par rapport à parce que je crois que tu m'as dit quand on a discuté avant que ta mère c'était la seule de sa fratrie qui s'est mariée à un blanc. Je crois que c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as vu une différence entre bah, du coup, toi et ta sœur et le reste de la famille, les cousins, cousines qui n'ont pas eu ce mélange de culture?
Bah après, en soi, quand je dis blanc, enfin, c'est plus bourgeois aussi, dans le
Ok,
sens
d'accord,
où...
ouais.
Bah attends, je réfléchis.
Désolée.
Bah... Ouais, non, en fait, ils sont tous restés dans des milieux prolétaires en soi, mais c'est pas forcément des personnes
Ouais,
racisées.
d'accord,
À
je
part
vois.
une personne à laquelle je pense, ils sont tous restés dans des milieux très très prolétaires. En fait, ma mère, c'est la seule qui s'est mariée avec un blanc, dans le sens où, enfin, en tout cas, la famille de ma mère le considère comme un blanc, mon père, parce que c'est un peu le blanc parfait, dans le sens où il est bourgeois et blanc, tu vois. En plus, mon père est vraiment bourgeois, enfin, ils ont tous fait école de commerce dans sa famille, enfin, vraiment, c'est un milieu assez privilégié. Et donc, du coup, je pense que c'est ça en cela. Mais du coup, en termes de classe sociale,
Ouais.
c'est vrai que mes cousines, mes cousins, qui ont vraiment grandi dans des milieux bah, de cité, de banlieue, ont des façons de se comporter, et même aussi par rapport à leur origine, qui est complètement différent de moi et ma sœur. Même ma sœur, tu vois, ça a été un peu différent. Enfin, on en parlera après, comment elle gère son origine. Mais mes cousins-cousines ont vraiment ce côté, ils vont genre assumer leur origine et ils vont limite s'en faire une identité très importante. Enfin, ma cousine qui a grandi en cité où il y avait plein de personnes d'origines différentes, elle assumait de ouf d'être algérienne, elle revendiquait avec un drapeau et tout. Enfin, vraiment rien à voir, tu vois. Elle voulait trop parler arabe tout le temps et tout. Et c'est vrai que elle assumait beaucoup plus et surtout, ma tante l'a laissée aussi assumer, limite l'encourager à assumer, tu vois. Donc c'est plus dans les milieux prolétaires où je sens que les origines, en fait, c'est limite une identité qui fait que tu te démarques aux autres, quoi.
Ouais, je vois. Et justement, bah, tu nous parlais de ta sœur, on peut en parler maintenant parce que pour le coup, vous avez toutes les deux bah, la même double identité, on va dire, et pourtant vous avez un rapport complètement différent à ça. Est-ce que tu veux bien nous en parler, nous expliquer un peu ça par rapport à ta sœur?
Oui, bien sûr. Bah, en fait, ma sœur, déjà, elle s'appelle Anna, Hanah. Donc, elle a, entre guillemets, un prénom un peu plus, entre guillemets, oriental, tu vois. Genre, je sais que on l'a un peu fait chier, même aussi sur le côté juif, tu vois, parce que c'est un prénom à connotation juif, alors que, bon, pareil, enfin, pas non plus de rapport. Mais aussi, ma sœur, en soi, elle a vraiment... Moi, j'étais plus quand même un peu geek, un peu réservée quand j'étais au collège et lycée. Donc, j'ai beaucoup plus d'amis, en fait, en soi, qui sont, entre guillemets, pas populaires. Enfin... Non, pas entre guillemets, voilà, enfin, qui sont pas genre dans les conventions, tu vois. Mais ma sœur, elle a toujours été cette fille un peu extravagante, populaire et tout. Et c'est vrai qu'elle, je pense qu'elle s'est fait pas mal fétichiser aussi par les blancs, par les hommes. Mais elle, je pense qu'elle a un peu essayé de pas trop protester par rapport à ça et un peu d'accepter ça en mode ouais, bah c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est différent parce que bah, moi, ça me mettait mal à l'aise. Mais peut-être qu'elle, ça, elle voyait peut-être pas le malaise ou peut-être qu'elle, elle essayait un peu de se le réapproprier, tu vois, en mode. Genre, ah ouais, je plais au mec et c'est stylé, et en plus je suis stylé, tu vois. Donc, c'est une façon de se réapproprier. Mais c'est vrai que bah moi, genre, j'avais pas envie en fait que les mecs me voient par rapport à ça. J'avais pas forcément envie en fait d'être l'arabe en fait exotique, quoi. Donc, c'était différent, ouais.
Ok. Et justement, tu nous parles de la fétichisation, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi, t'as vécu par rapport à ça?
Ok. Comment qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à
Bah,
ça?
comment est-ce que
Je
toi,
réfléchis.
t'as ressenti la fétichisation? Peut-être déjà nous expliquer un peu, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas forcément ce que c'est que le fait de fétichiser des personnes avec un peu de l'exotisme et tout ça, si tu peux nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que toi, tu l'as vécu?
Bah moi, je trouve que la fétichisation, j'aime bien dire ça, c'est qu'en général, les gens qui font ça, ils croient que c'est positif, ils croient que ça fait vraiment du bien à la personne, que ça fait plaisir, et ils croient vraiment que, ils sont pas du tout racistes en faisant ça. Ils croient vraiment que justement, c'est le contraire, qu'ils vont être super ouverts d'esprit et tout, super tolérants et tout là. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et en fait, la fétichisation, bah, moi, je l'ai ressentie dans le côté où on allait me prendre par rapport au fait que j'ai la pommade. On allait venir vers moi parce que j'avais la pommade. Et il y avait peut-être aussi ce côté un peu beurrette, dans le sens où, en fait, moi, je suis une fille, tu vois, racisée, et je suis assez féminine dans ma façon d'être. Surtout, du coup, quand j'ai commencé à grandir et être plus à l'aise avec mon corps et avec moi-même. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression des fois que les hommes avaient ce côté genre un peu beurrette dans le sens où c'était un peu le petit toutou, tu vois, genre le petit trophée en mode j'ai réussi à avoir une meuf racisée, en plus un peu concon, entre guillemets, tu vois. Un peu en mode ouais, parce que c'est vrai qu'en plus je suis un peu maladroite à l'ouest et tout. Et peut-être que c'est construit ou pas, mais il y avait ce côté un peu ah ouais, genre j'ai réussi à avoir Louise et puis et à être pote avec elle. Et en plus, bah, c'est un peu un trophée, un moyen d'exister en mode genre, j'arrive pas à expliquer.
Ouais, je vois totalement ce
Ouais,
que tu
c'est
veux dire,
compliqué à
dans le
expliquer.
sens où j'ai pu voir aussi, moi, plus du côté, du coup, en étant blanche, de voir justement des potes blancs ou même des potes blanches qui veulent sortir avec un mec noir parce qu'elles trouvent ça stylé et tout, parce qu'il y a ce truc aussi, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais de « oh là là, comme ça, on va avoir des enfants, ils seront métis, c'est trop
Oui,
beau
de
et tout
ouf.
».
Voilà,
Genre,
oui,
il y
c'est
a
vrai, oui.
vachement ce truc-là de… Où t'as l'impression que les gens, en fait, quand ils se disent ça en mode bah, du coup, je suis pas raciste parce que moi, je trouve ça trop beau et tout.
Ouais,
Mais
c'est
en
vrai.
fait, du coup, ils sont vachement dans le truc inverse de bah, justement, fétichisation en mode ils veulent coucher par exemple avec une fille noire parce que juste c'est une fille noire et qu'ils ont envie de voir ce que ça fait, quoi. Enfin.
Ça fait vraiment ça. En fait, oui, t'as posé les mots intéressants. C'est genre vraiment, ça fait stylé, ça fait genre performance. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai enfin trouvé le terme. C'est que beurette, en fait, il y a un peu totalement une idée reçue du porno qui dit que quand t'es genre maghrébine ou musulmane, parce que souvent aussi, ça n'a aucun lien, enfin, ça n'a pas forcément le lien d'être musulmane et d'être maghrébine ou inversement. Mais c'est vrai qu'à ce côté, genre, ah ouais, en fait, elle est toute réservée, toute timide, mais au lit, c'est une chaudasse, tout ça. Et c'est vrai que bah, j'étais quand même assez réservée pendant longtemps et je suis encore un peu, il y a ce côté ah ouais, elle, je suis sûre que c'est une chaudasse. En plus, genre, c'est un peu une tigresse, tu vois. Genre,
Ouais,
voilà,
ça revient de
j'ai
ouf,
enfin
ça.
trouvé le mot. Genre, en mode la petite beurette, ça va être ça en mode ou alors aussi elle a des formes et tout, donc trop sexy. Enfin, genre, voilà. Et ça me mettait mal à l'aise. Et surtout quand tu parles du coup du côté métisse en mode j'ai trop envie d'être avec un mec noir, ça va faire un mec métisse, bah tu vois que la couleur de peau. Ça me fait penser à un mec une fois qui m'avait dit ah j'aimerais trop que tu viennes faire un plan à trois avec moi et un mec noir, parce que ça ferait un beau mélange, tu vois. Et genre ça c'est typique, ça fait trop genre je te vois que par rapport à ta couleur de peau et en mode ta personnalité, bah ça on s'en fiche quoi, genre qui tu es et tout. Et c'est vrai que bah t'as pas envie d'être réduit à une couleur de peau, enfin non. Et surtout que ça fait vraiment ils croient qu'ils te mettent en valeur, ils croient qu'ils te trouvent belle et tout comme ça, mais genre moi j'ai pas envie d'être belle par rapport à ma couleur de peau, surtout que bah j'ai vécu du racisme cette fois pur et dur en mode t'es pas française, c'est quoi tes origines, parce que ça se voit que t'es pas française. Ou genre rien qu'au travail, on m'a déjà dit, mais vous êtes française et tout. Enfin, tout de suite, on va croire que je suis pas du tout d'ici par rapport à ma couleur de peau, sachant que le racisme, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça c'est du colorisme. Le racisme, enfin, la discrimination, pardon, envers les couleurs de peau, c'est le colorisme. Mais le racisme, ça peut aussi être quand t'es blanc et que tu t'appelles pas d'un prénom soi-disant français. Ça peut être plein de formes, c'est dans le système en fait, c'est pas juste la couleur de peau. Donc ça, il faut vraiment le voir, je pense. Et c'est vrai que dans la fétichisation, on a vraiment l'impression que c'est positif, quoi. Il y a aussi ce côté, j'aimerais trop avoir la pommade et tout machin. Alors qu'en fait, quand t'as la pommade, la vie est pas du tout belle en soi. Il y a plein de moments où ça va pas parce que t'es ramené à ta couleur de peau et c'est pas du tout agréable parce que t'as pas l'impression de savoir qui tu es. Et t'as pas l'impression en fait d'exister pour les gens pour ce que tu es, mais plus par rapport à ta couleur de peau. Et c'est pas du tout agréable, quoi.
Ouais, et justement, enfin, toi, t'es hyper engagée aussi pour le féminisme, donc t'es au courant de déjà toutes les problématiques que tu peux rencontrer en tant que femme et qui du coup s'additionnent avec toutes les problématiques que tu rencontres en tant que personne racisée. Et du coup, toi, est-ce que t'as ressenti justement un peu cette double peine, entre guillemets, d'être à la fois une femme et à la fois une personne racisée?
Oui, complètement, complètement. Genre, ça c'est sûr, même aussi en termes de, bah, de rapport aux hommes, surtout quoi. Genre, le côté où ils peuvent un peu faire, enfin, faire ce qu'ils veulent de moi, en mode me parler comme je veux, comme ils veulent eux, je veux dire, et le fait d'être racisé. Ça, c'est sûr que je l'ai ressenti. Si j'étais un homme racisé, ça aurait été différent. Après, j'aurais vécu du racisme aussi, mais quand t'es une femme, c'est encore pire. Tu peux encore moins gagner parce que t'as tout le patriarcat et t'as aussi le côté, genre, ouais, genre trophée, quoi. Et encore une fois, genre, je reviens sur ce côté-là, trophée, beurette, en mode j'ai réussi à la pécho et tout parce qu'elle est trop exotique, tu vois. Et genre, c'est tellement rare dans nos milieux que du coup, j'ai réussi et je trouve ça tellement malsain, tu vois. Et ouais, j'ai totalement vécu ces deux côtés-là, cette misogynie-là vraiment difficile, ou même encore une fois sur l'expression, la façon de parler, ce côté où j'arrive pas à bien parler français, et du coup, genre, les hommes blancs vont me dire ouais, non, mais t'inquiète pas, genre, entre guillemets, je vais t'apprendre la vie, je vais t'apprendre à bien parler, enfin, genre, je sais pas, genre, je me rappelle de certaines personnes qui m'ont dit ouais, là, tu vas pas réussir ton oral parce que la façon dont tu parles, ça fait pas très français, donc je vais t'aider, tu vois. Voilà.
Mais what?
Ok, genre.
C'est trop bizarre
Oh,
en
mais oui,
vrai.
c'est trop bizarre, genre vraiment. Et bon, Voilà, genre, moi, ça m'a toujours mis vraiment très mal tout ça parce que, genre, je me sentais pas du tout intégrée et, encore une fois, genre, je pense pas que je m'exprime mal, tu vois, genre,
Non, bah non.
et surtout que je pense pas que c'est de rapport. Enfin, je sais que ma mère, des fois, elle a des mots qu'elle comprend pas en français et tout, mais en vrai, tout le monde a des mots qu'ils
Oui,
comprennent pas
bah oui,
forcément en français,
bien
c'est pas
sûr.
que. Mais moi, je sentais vraiment qu'il mettait très vite le lien avec le fait que j'étais racisée, quoi. Vraiment, il mettait très vite le lien, enfin, de dire vraiment pas français, genre, parler mieux français, genre. Ça, on me l'a souvent dit, enfin, c'est quand même pas rien, tu vois, genre, comme si, genre, ouais, j'étais pas de chez eux, que j'étais pas comme eux, quoi. C'était vraiment ça que je ressentais. Donc, et juste parce que je perdais mes mots, tu vois. Même pas parce que je disais des mots qui n'existaient pas en français, tu vois.
Oui, non, mais
Donc,
ouais.
même pas si je parlais avec un accent arabe ou un truc comme ça. Enfin, même pas, tu vois.
Ouais, c'est fou. Et tout à l'heure, tu parlais de des religions ici. Est-ce que tu as grandi avec deux cultures religieuses marquées ou pas forcément?
Oui, quand même. Ma grand-mère était du coup musulmane, mon grand-père aussi, je crois, et du coup, ma grand-mère du côté de mon père était catholique, et mon grand-père était agnostique du côté de mon père. Mais du coup, c'est vrai que quand même, bah, ma grand-mère était quand même assez catholique du côté de mon père, donc elle nous en parlait beaucoup. Et c'est vrai que du côté de mes grands-parents avec ma mère, c'était quand même une culture très musulmane. Donc voilà, il y avait l'Aïd, la fête du mouton, pas la fin, la fin du Ramadan, la fête du mouton, en genre, voilà, qui n'a rien à voir qu'on fête encore maintenant. Il y avait aussi donc des fois le Ramadan qui était fait du coup par mes grands-parents. Donc c'est vrai qu'à côté, genre chez mon père, c'était complètement différent comme ambiance. Donc t'avais les messes et tout machin. Et même aussi en termes de, comment dire, de, je me rappelle de le youyouy, je crois que c'est dit comme ça, dans les fêtes qu'on fait au mariage souvent et tout. Ben, c'est vrai que les mariages que je faisais avec la famille de ma mère étaient complètement différents de ceux de la famille de mon père. Et c'est vrai que dans la culture musulmane maghrébine, on va beaucoup plus crier, on va vraiment plus danser, enfin, vraiment rien à voir. Et c'est vrai que des fois, quand j'étais petite, je savais pas trop en fait sur quel pied danser. Certaines manières, parce que c'était encore une fois une double culture, mais la religion a un peu joué, c'est vrai. Après, ce que j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé malin de la part de mes parents, c'est qu'ils nous ont jamais imposé vraiment. C'est qu'en fait, moi je trouvais que ça se sentait qu'ils nous faisaient découvrir. Genre, mes grands-parents, en tout cas, m'ont fait découvrir la religion musulmane, ma grand-mère surtout m'a fait découvrir la religion catholique, mais il n'y avait pas de, bon, bah, toi, du coup, va te faire baptiser, ou on fait le ramadan avec nous, bah non, en fait. C'était vraiment, genre, on s'est fait baptiser avec ma sœur civilement, quand on avait, genre, je sais pas, 12-13 ans, donc quand même, on était quand même assez consciente et tout, de ce qu'on faisait, et après, genre, on n'a pas vraiment eu de religion attitrée, tu vois. Enfin, c'est peut-être aussi dû au fait que mon père, en soi, était pas du tout pratiquant catholique et ma mère pas du tout pratiquante musulmane. Donc en fait c'était vraiment nos grands-parents donc c'était pas non plus
Oui,
directement nos
c'était moins
parents.
proche.
C'est ça. Mais quand même je trouve ça assez chouette qu'ils nous ont pas trop imposé, trop qu'ils nous ont vraiment laissé découvrir quoi. Donc bon.
Et t'as jamais ressenti de la part d'une famille et de l'autre un peu de justement du côté catholique par exemple oh bah on voudrait pas trop qu'elle devienne musulmane ou inversement de l'autre côté, il y a jamais eu ça dans ta famille de problématique comme ça?
Non, franchement, je
Il y a
crois
toujours eu
pas.
une bonne un bon respect et une bonne tolérance de l'autre culture
Je réfléchis quand même. Bah, encore une fois, à part la fétichisation, genre le côté un peu fantasme sur la culture musulmane maghrébine de la part de la famille de mon père, en mode ah, ok, le ramadan, c'est comment, machin, machin, ou genre. Le couscous, machin et tout, comment vous le faites? Enfin, des trucs bizarres comme ça. Du côté de la famille de ma mère, non. Mais c'est vrai que pas trop. Franchement, j'ai pas trop de souvenirs où c'était vraiment violent. Je trouve que justement, c'est intéressant que mes deux parents, au final, soient de deux cultures différentes et qu'ils se sont quand même aimés et qu'ils aient créé une famille. Enfin, en tout cas, mes deux grands-parents n'ont jamais eu de différends, quoi. Ça, c'est chouette.
Ok, bon bah c'est bien, ça fait, c'est déjà ça fait plaisir. Et quand tu nous parlais de toute la fétichisation que tu as subie, est-ce que toi ça t'a causé carrément un dégoût des hommes avec la peur justement de dire bah, en fait je vais encore être fétichisée, ça me saoule. Comment t'as vécu ça?
Alors en fait j'ai commencé donc à me sentir fétichisée donc vers 14-15 ans et c'est aussi à cette période-là que je me suis questionnée sur ma sexualité et à me questionner si j'étais pas lesbienne ou bisexuelle parce que voilà je commençais à regarder les femmes tout ça et donc je me suis demandé bah, si j'étais pas du coup attirée plus que par les filles exclusivement et surtout que les hommes en fait me mettaient mal à l'aise parce que je voyais qu'ils me regardaient que à travers ma couleur de peau. Mais en fait, c'était surtout ces hommes-là qui mettaient mal à l'aise, les hommes qui me fétichisaient, pas tous les hommes, tu vois. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, ça m'a pas forcément aidée dans mes relations avec les hommes derrière. Parce que c'est vrai que, notamment par le fait que j'ai subi, enfin maintenant je le sais, je suis pas lesbienne ou hétéro, le fait d'être bi, souvent aussi t'as de la
Oui,
fétichisation.
ça rajoute un
Super,
truc,
voilà, c'est
quoi.
ça. Donc voilà, donc dire la fétichisation du fait de, entre guillemets, coucher ou être avec une femme maghrébine, mais en plus d'être avec une femme bi, il y a toujours ce truc de plan à trois, machin et tout. Et ça, forcément, pareil, genre giga malsain. Et. En fait, j'avais un peu aussi cette peur de dire que j'étais bi et aussi de, entre guillemets, revendiquer mes origines, même si ça se voit. Parce que ouais, j'avais cette peur que les hommes directs me voient que par ma bisexualité, mais de manière fétichisante. Et par aussi ma couleur de peau, quand je te disais le gars là qui m'avait dit que ça ferait un beau mélange et tout,
Ouais.
ça typique en fait de la fétichisation et des meufs, du coup, et des meufs racisées. Mais ouais, donc du coup, compliqué, enfin, c'est vrai que ça m'a pas trop aidée en fait avec les hommes, cette fétichisation, c'est vrai. Et notamment, ça s'ajoute à la sexualité en fait où je me cherchais et je me suis trouvée, hein, mais voilà, c'est vrai que ça a rajouté parce que je me suis demandé quand même à un moment donné si ouais, j'étais pas lesbienne parce que genre, moi j'arrivais pas du tout en fait à être à l'aise avec les hommes parce que je me sentais trop trop mal à l'aise en fait sur la façon dont ils me regardaient quoi. Surtout que forcément, genre dans ces moments-là, genre je posais des questions en fait aussi sur ma sexualité en fait à moi, genre sur toutes ces questions de sexe en fait en soi. Et c'est vrai que je savais pas trop du coup comment dealer avec tout ça quoi, c'était vraiment compliqué. Et puis forcément, il n'y avait pas beaucoup de représentation à l'époque quoi, genre maintenant c'est trop bien, la génération Z, ils ont l'ENA situation, ils ont de Dol Beauty je crois aussi, enfin plein de représentations trop cool. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de déjà de personnes bi, ça c'est sûr, mais de personnes aussi racisées, c'était vraiment compliqué. Donc je me sentais vraiment pas bien, c'est vrai, dans les relations pendant longtemps à cause de ça, je pense.
Ok, et enfin, quand tu nous parlais de fétichisation, du coup, c'était uniquement des hommes blancs qui te fétichisaient ou est-ce que tu as déjà eu des relations comme ça? Enfin, est-ce que tu as déjà ressenti ce genre de choses aussi avec des hommes racisés ou pas du tout?
Non, je crois pas. En fait, avec les hommes racisés, j'ai la relationnée avec les hommes racisés. Il y avait un peu ce côté, genre, on se sait.
Oui, on se comprend.
Voilà, on se comprend. Genre, franchement, non, pas trop. C'était vraiment les hommes blancs et vraiment souvent de classe assez aisée. Vraiment, ça n'a pas trop été les personnes racisées. Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenirs vraiment qui m'ont marqué ou une personne racisée m'a fétichisée. C'était vraiment plus un côté où ils savaient ce que je ressentais et tout. Ils étaient assez gentils, quoi, genre,
Ouais, je
par
vois.
rapport à ça. Enfin, ils n'étaient pas du tout à me voir que par rapport à ça.
Ok. Et ça, du coup, c'est un truc qui t'influencerait plus tard dans la personne avec qui tu voudrais vivre, enfin si tu veux être en couple plus tard ou pas, mais en mode maintenant j'ai plus trop envie forcément de relationner avec des hommes blancs ou pas forcément, ou t'arrives encore à tomber sur des personnes bienveillantes qui te fétichisent pas.
Complètement quand même, ça m'a complètement influencée quand même, dans le sens où c'est vrai que après j'ai commencé aussi à avoir pas mal de relations non sérieuses, et c'est vrai que dès que je sentais que le gars genre me fétichisait ou quoi, ou que voilà, dans certains trucs au lit ça sentait la fétichisation, très vite je me dis bon lui c'est sûr que je le reverrai plus quoi, genre voilà, ciao, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait non, ça m'a quand même influencée. Maintenant je fais super attention à ce que vont dire notamment les hommes blancs, même en vrai les femmes aussi hein, peuvent aussi être racistes.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais, si au niveau des femmes, t'étais déjà tombée sur des femmes blanches qui te fétichisaient aussi.
Non, c'était plus le côté, je pense, fétichisation, mais de la bisexualité, en mode ah j'aimerais trop coucher avec une femme pour essayer. Et du coup, entre guillemets, moi je suis pas je suis pas lesbienne, mais tu vois, genre vu que je suis un peu féminine, il y a un peu ce côté, genre je pense que les femmes qui me disaient ça, elles avaient un peu intériorisé de la lesbophobie, biphobie, et elles sont un peu là en mode les lesbiennes elles font trop camionneur, et du coup toi ça va, tu fais un peu
Ouais, je
féminine,
vois.
donc je pourrais entre guillemets tenter avec toi pour l'expérience. Et c'est vrai que ça me mettait mal à l'aise, mais en termes de je sais pas si du coup elle pensait aussi ça par rapport au fait que comme je suis très comme je suis racisée et féminine, peut-être qu'il y avait ce côté aussi, genre en plus t'es maghrébine donc
Double
ce serait stylé,
expérience.
voilà c'est ça, trop stylé genre, voilà peut-être hein. Mais c'est vrai que là aussi pareil je me dis non en fait moi je veux vraiment plus ressentir ça quoi, je veux vraiment pas ressentir ce côté genre je veux trop essayer avec une meuf bi, je veux trop essayer avec une meuf racisée, non je suis plus que ça. Et pour moi c'est des choses importantes, créer une relation c'est important, et il n'y a pas de problème pour parler d'origine, pour parler de bisexualité, mais Genre, pas en mode curiosité malsaine et pas en mode expérience, délire et tout. Bah non, c'est pas drôle en fait, ce genre de choses. C'est des choses qui questionnent les gens et c'est vraiment pas cool de les prendre que pour ça, quoi.
Ouais, clairement. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur toi, ta vision du féminisme aujourd'hui en tant que justement jeune femme racisée, bisexuelle, etc. C'est quoi toi ta vision du féminisme aujourd'hui?
Alors, grande question, parce que je suis passée par plusieurs phases du féminisme en
Ouais, bah
soi.
c'est intéressant
De
justement.
ouf. Bah, c'est vrai que le féminisme, pour moi, c'est important depuis que je suis au lycée. Et au début, c'est vrai que j'avais une vision assez, comment dire, réduite du féminisme. Surtout qu'en fait, j'avais plus ces modèles-là, tu vois, une vision très blanche et très bourgeoise du féminisme. Et c'est vrai que j'aimais trop, hein. Enfin moi j'aimais bien et tout, c'était mes premiers pas dans le féminisme, mais c'est vrai qu'il y avait des trucs des fois où je me reconnaissais pas, notamment parce que je suis racisée et que je suis bi. Par exemple le fait de s'épiler, là le féminisme du coup que j'ai commencé à regarder quand j'étais plus jeune disait vraiment qu'il faut pas s'épiler et tout. Sauf qu'en fait, moi étant racisée et étant brune, je me suis un peu fait embêter par mes poils, parce que j'en ai aussi du coup sur le visage, voilà. Et c'est vrai que je me suis sentie aussi très mal à l'aise, souvent encore une fois par les hommes, et ça peut aussi être des filles qui te disent ah, t'es poilue, c'est moche et tout. Et c'est vrai que les femmes, du coup, les féministes qui disaient bah épilez-vous plus, enfin ne vous épilez plus, c'est trop bien et tout, bah j'avais trop du mal avec ce discours-là et je me sentais limite une mauvaise féministe du coup quand je m'épilais, parce que j'avais l'impression en fait d'être patriarcale, tu vois, alors qu'en fait non, je pense juste que quand t'es racisée, les poils c'est un vrai sujet. T'en as d'ailleurs parlé récemment. Et
Ouais, pour le
genre.
coup, moi je suis pas racisée, mais par contre
Oui.
j'ai la peau très claire avec des poils très noirs, donc je te comprends.
Oui. Mais en fait, voilà, il y a ce côté quand même quand quand t'as des poils et que t'es maghrébine et tout. Enfin, genre, je trouve que les féminismes blanches ne se rendent pas forcément compte. Enfin, quand tu vois, tu leur dis, enfin, je voudrais faire l'épilation définitive et qu'elles te disent, ah, mais c'est dommage et tout. Bah ouais, mais en
Ouais,
même
c'est
temps,
ça.
tu peux pas vraiment comprendre, toi, tu vois.
Ouais, clairement.
Genre, il y
Bah,
a ce côté-là.
c'est vachement, ouais, les blondes qui ont trois poils sous les bras et qui te disent non, mais moi j'assume mes poils et tout. Toi, t'es là, ouais, mais moi si j'assume mes poils, ça fait pas le même effet que toi, peut-être que t'es trois petits poils sous les bras.
Bah oui,
C'est
voilà,
un
c'est
peu
ça.
plus impressionnant, si tu vois ce que je veux
Exactement.
dire.
Donc, bon, forcément, voilà, ça c'est intéressant, je trouve, dans le féminisme, de se poser les questions sur le féminisme, en fait, qu'on voit partout. C'est un féminisme qui correspond pas à tout le monde, et bourgeois aussi, parce que, genre, très vite, ça va partir en développement personnel, un peu en mode, faites des voyages, achetez plein de livres et tout, sauf qu'en fait, quand t'es de classe prolétaire, tu te rends compte que t'as pas forcément le temps, t'as pas forcément l'argent en fait pour faire tout ça, et c'est pas grave en soi, mais juste puis il y a aussi ce côté genre soyez avec l'homme que vous voulez et tout, mais pareil, enfin quand t'es en classe prolétaire, des fois t'as pas le choix de vivre, enfin c'est pas soyez avec l'homme que vous voulez, mais genre soyez la femme que vous voulez, soyez libre et tout, mais quand t'es une femme prolétaire, des fois t'as pas le choix et tout parce que tu gagnes moins, enfin. En fait, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte dans le féminisme et je pense que l'identité et la pluralité d'identité est intéressante, même aussi genre le ménartrage, tu vois, notamment quand je te parlais des hommes racisés, il y a ce côté on se sait, bah moi j'ai pas envie de dire que c'est des ménartrages, tu vois, je trouve que les ménartrages c'est plus les hommes blancs qui m'ont fétichisé que les mecs racisés qui m'ont aidé, même aussi les mecs prolétaires, tu vois, qui m'ont un peu plus comprise que les mecs blancs qui m'ont tout de suite fétichisé. Donc voilà, en fait, que ce soit le féminisme ou d'autres luttes, en fait, c'est vraiment de le voir dans la pluralité de l'identité, d'essayer de voir au-delà de la personne, en fait, et de pas juste généraliser. Et j'essaye aussi de me dire que dans le féminisme, enfin, on n'est pas forcément tous au même niveau, et c'est pas forcément grave, en fait, en soi, justement, faut pas culpabiliser, et que le féminisme, c'est genre se lutter contre le patriarcat, c'est pas lutter contre une personne individuellement, tu vois.
Ouais, très intéressant. Et pour revenir aussi sur la notion des classes sociales, tout à l'heure, on parlait justement du côté transfuge de classe parce que ta maman, elle a fait des grandes études, voilà, et que maintenant elle est cadre, ton père cadre. Quand on a discuté tout à l'heure, tu m'as dit que ta sœur, elle a suivi cette trace-là en étant en école de commerce et tout, et que toi, au final, bah, tu sors un peu de ça. Est-ce que tu peux nous en parler aussi et expliquer un peu, bah, comment est-ce que c'est vu autour de toi le fait de pas vouloir rentrer dans ce truc de école de commerce à fond, rester dans le truc de bourgeoisie, mais au final aussi transfuge de classe, mais plutôt dans l'autre sens. Comment est-ce
Je
que tu
vois.
l'as vécu ça aussi?
C'est intéressant parce que c'est vrai que bah, je suis un peu la babose de la famille, j'aime bien dire ça, clairement, parce que vraiment, bah, moi, très vite, bah, déjà dans mon entourage, quand j'étais au collège, j'ai rencontré des personnes vraiment bah, très geek, très queer un peu et tout. Enfin, vraiment, on avait une ambiance qui était. On était un peu les bizarres, tu vois, mais c'était trop bien. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à ma sœur, bah, ça m'a un peu aussi aidée à un petit peu, comment dire. Ne pas prendre la voie familiale qui était très tracée parce que je me suis dit il y a peut-être autre chose, tu vois, et je me suis un peu construite bah, par les réseaux sociaux, par cet entourage en fait qui n'était pas du tout le même que chez moi, et du coup ça m'a fait que j'ai pas du tout suivi la trace de mes parents et de ma sœur, et c'est vrai que je sentais que mes parents acceptaient pas trop ça. Dans le sens où ils étaient toujours en train de dire, ouais, on accepte que tu ailles en L, que tu ailles faire des études de BTS ou un brevet, tout ça et tout, mais genre, tu pourrais pas faire d'autres trucs plus tard ou tu pourrais pas faire une école, on sait jamais. Genre, voilà, ils étaient quand même pas très à l'aise et surtout, bah, enfin, à chaque fois au repas de famille, moi, je pouvais pas trop en parler parce que, bah, ils disaient, ils connaissaient rien, mais c'est pas non plus un mal, enfin, dans le sens où c'est normal, c'est pas leur milieu, mais c'est vrai qu'ils faisaient pas trop d'efforts pour le connaître et moi, je me sentais un petit peu seule des fois dans mes revendications et dans ce que je voulais faire dans mes études. J'avais l'impression que c'était pas accepté, et c'est vrai que même aussi dans le milieu de ma famille, de chez mon père, bah, ils ont tous fait aussi des grandes études, et moi c'est vrai que j'avais du mal à être vraiment reconnue. Et en plus, comme je suis la plus jeune, il y avait un peu ce côté genre, oh, elle est bien naïve celle-là, genre, enfin voilà, genre j'étais pas forcément à l'aise, mais par contre, encore une fois, la famille de ma mère, toujours compréhensive, toujours là pour m'encourager dans ce que je voulais faire, et là pour le coup, j'étais beaucoup plus moi-même que la famille de mon père. Mais c'est vrai qu'en termes d'identité, ça a souvent été compliqué. J'ai souvent été anxieuse par rapport à ça, en mode, mais est-ce que je pourrais pas faire une école de commerce et au final, je serais acceptée comme ça par la famille de, par la... ma famille? Parce que c'est vrai que, bah, en plus, comme j'étais la plus jeune, j'avais l'impression que je devais prouver quelque chose. Parce que ma sœur, elle a toujours été un peu la fille parfaite, tu vois, en mode, elle a fait des études comme il fallait et tout. Et moi, genre, j'arrivais pas trop derrière. En plus, j'étais pas forcément très forte en cours. J'étais assez réservée en plus et tout. Et genre, du coup, genre, j'ai l'impression que je cochais pas du tout les mêmes cases que ma sœur et que j'étais pas du coup dans les cases. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal du coup à être bien avec tout ça, à être bien avec moi-même parce que je me dis, mais je suis pas acceptée en fait dans ma famille. Et comme du coup, j'étais pas la populaire, genre, je suis pas acceptée par les autres, mais comment je vais faire dans la vie, tu vois? Et au final, là, ça va beaucoup mieux, mais vraiment. Mais ça a été compliqué pendant pas mal de temps avant vraiment de réussir à trouver ma place avant de se dire au final bah fais ce que tu as envie de faire puis les autres tu t'en fous, notamment ta famille tu t'en fous au final.
Ouais, clairement. Et du coup, là maintenant, c'est quoi tes projets, tes envies pour plus tard, pour la suite?
Bah, ce qui est sûr, c'est que je voudrais réussir ma formation de libraire. Je voudrais être libraire, ça c'est sûr, c'est trop mon truc, vraiment. Je me vois pas ailleurs que là, vraiment dans une petite librairie. Je voudrais réussir un voyage que je vais faire là cet été. Je voudrais partir au Canada, bah, tout est calé déjà, mais je pars toute seule en soi parce que pour moi c'est important et tout. Bah, pareil, un truc bourgeois, mais c'est pas grave, genre c'est un truc que je veux faire depuis longtemps, genre me faire un voyage toute seule et découvrir les choses par moi-même sans avoir quelqu'un. Sans être forcément en couple, forcément avec des amis. Et puis, bah, continuer à me déconstruire, à apprendre des choses sur le monde, sur la société, et puis peut-être me tromper, et puis réapprendre des choses. Voilà.
Ok, trop bien. Bon, en tout cas, du coup, quand les personnes écouteront cet épisode, tu auras déjà fait ton voyage. Du coup,
Carrément, c'est ça. J'espère que ce
tu
sera bien
seras
passé.
sûrement en alternance dans une librairie. Donc,
Bah, la Louise du futur, j'espère que tu es heureux. J'espère que tu as passé un bon voyage.
salut à toi.
C'est ça.
Ok. Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer sur le sujet de la mixité, la place des personnes racisées dans la société?
Oui, bah écoute, si toi qui écoutes ce podcast, tu te sens pas assez blanc, tu te sens pas assez comme les autres, tu te sens pas assez dans les normes et tout, bah déjà t'es stylé, c'est sûr. T'es forcément basé, t'es forcément trop bien comme personne. Et franchement, genre bah ta différence, c'est ta force. Notre force aux personnes discriminées, aux personnes racisées, c'est qu'on est ensemble, c'est qu'on est solidaires. Et franchement, mais sois tellement content d'être différent. On n'a pas choisi qui on était, mais on peut choisir d'utiliser cette émotion de colère et de tristesse pour faire une force, pour faire un moteur pour avancer et pour en fait devenir quelqu'un de super intéressant, de super agréable et de super bien pour l'humanité. Voilà.
Trop bien, très bon message. Et justement, plus du coup pour des personnes blanches qui t'écoutent et qui savent pas toujours comment ne pas être maladroite ou comment ne pas devenir cette personne blanche qui fétichise les personnes racisées parfois sans s'en rendre compte, quel conseil tu donnerais toi pour être une bonne alliée des personnes racisées?
Bah déjà de se rappeler que en fait même si t'es super queer, super tout ça et tout, bah le fait d'être blanc bah fait que ton identité fait que tu es oppresseur en fait en soi. Tu es né comme ça et que bah de certaine manière tu vas forcément prendre la place dans un travail ou autre chose d'une personne racisée. De ne pas poser la question fatidique qu'on m'a énormément posée dans ma vie, j'ai quelle origine cette question-là, genre, faut pas la poser. Ça, c'est sûr. Et surtout, bah, si la personne te dit que t'as été raciste, tout ça, bah, l'écouter et puis surtout bah, se déconstruire et se rendre compte aussi. Enfin, il y a aussi un autre truc que les Blancs, ils aiment bien faire, c'est se positionner un peu comme la personne qui va genre sauver les personnes
Ouais,
racisées
white
et tout.
savior.
Voilà, white savior. Genre, c'est plutôt ça. Genre, je pense qu'il faut faire attention, c'est que, enfin, quand du coup tu vas aider une personne racisée et tout, enfin, ne fais pas des tonnes, quoi. Ne fais pas non plus comme si c'était un truc de fou et rends-toi compte aussi, surtout le white savior dans tout ce qui est genre, je sais pas, voyage humanitaire,
Ouais,
choses
c'est
comme ça.
exactement ce que j'allais dire, ouais.
Voilà, genre en fait, rends-toi compte que c'est assez malsain ce genre de truc parce que imagine quelqu'un vient chez toi et observe comment tu vis et décide de implanter sa culture. Bah non, enfin genre c'est pas possible de faire ça, c'est hyper gênant. Enfin chaque culture est légitime et notre culture occidentale n'est pas forcément la meilleure et là l'exemple à suivre. Bah après sur le côté genre je vais enlever je pense le côté genre dire quand c'est raciste écouter forcément parce que bon voilà mais en tout cas le conseil plutôt que je donnerais aussi aux blancs ce serait quand t'es face à une personne racisée oui essaye de ne pas ne comment dire ne comment dire sens-toi libre de lui poser enfin sens-toi libre quand du coup elle parle de son origine je veux dire bah de poser des questions mais si elle se sent à l'aise avec ça donc en fait précise bien voilà je veux pas que ça te mette mal à l'aise mais est-ce que je peux poser une question parce que en soi c'est pas forcément bah, on n'a pas non plus pas envie de parler de nos origines c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi enfin moi j'aime bien parler de mes origines avec des personnes blanches enfin, j'aime bien aussi leur apprendre des choses et ça fait partie de moi ça fait partie de mon enfance mais ce qui est gênant c'est quand ils vont te bombarder de questions et quand surtout quand ça te met mal à l'aise et que tu leur fais sentir cette malaise, bah, arrête de forcer, quoi. Mais d'une certaine manière, c'est aussi important qu'en tant que personne racisée, les personnes blanches écoutent ce qu'on a à dire sur notre histoire et qu'ils se rendent compte, en fait, et surtout que, entre guillemets, ils prennent ça avec du second degré en mode « Ah là là, nous les blancs, qu'est-ce qu'on est cons », tu vois, genre. Et que du coup, ça amène à des discussions un peu rigolotes, tu vois, mais comme aussi les bourgeois ont fait, comme les personnes, bah, les hommes, enfin voilà, ce côté un peu second degré qui fait que, voilà, on se rend compte qu'on a des privilèges, mais qu'on peut aussi, genre, être quelqu'un de super déconstruit dans la société, quoi.
Ok, bah très bien, c'est très intéressant en tout cas, j'espère que ça pourra servir à des personnes qui nous écoutent. Du coup, maintenant, la dernière question du podcast, donc Over the Rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel, c'est donc une notion d'espoir forte. Toi, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui, en quelque sorte, ton mot de la fin pour cet épisode?
Bah, je dirais que en fait toutes les fois on n'est pas trop sûr en fait de qui on est que on se demande un peu qui on est sur cette terre et tout bah il faut essayer de se souvenir de tous les moments où on a vraiment ressenti cette espèce de bien-être au fond de nous-mêmes quand on a été avec des amis mais même aussi je sais pas moi quand je fais du dessin des fois je le ressens quand je fais de la danse quand je lis un livre quand je regarde une série trop drôle et tout et se dire que c'est ça qui fait notre personnalité en fait c'est tous ces petits moments-là qui font qu'on est qui on est qu'on est unique et qu'il faut se dire qu'on est sûrement une personne superbe en fait et avoir confiance en qui on est parce qu'on a forcément quelque chose de super à apporter au monde quoi.
Très bien, très beau message pour terminer cet épisode. Bah, merci beaucoup Louise en tout cas d'être venue raconter ton histoire. C'était un sujet qu'on n'avait encore pas trop abordé dans le podcast. Si les thématiques de métissage vous intéressent, j'avais enregistré un épisode avec Marwani qui a du coup plusieurs origines. Elle a du côté de sa mère, c'est le Laos, et du côté de son père, je crois que c'était le Sénégal, si je me rappelle bien. Et il y avait aussi plusieurs religions qui gravitaient avec le bouddhisme, la religion musulmane, la religion catholique, etc. Enfin bref, c'était assez intéressant aussi. sur le sujet de trouver sa place en tant que personne métisse. Donc voilà, si vous avez apprécié l'épisode avec Louise, je pense que vous apprécierez aussi celui avec Marwani. Donc n'hésitez pas à aller écouter. C'est dans les, je me rappelle plus exactement du numéro de l'épisode, mais c'est dans les premiers épisodes. Donc au pire, je le mettrai en description. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Louise, encore une fois, c'était trop intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment et que ça t'a plu.
Bah merci Capucine et merci, c'était trop cool. Enfin, ça m'a fait trop plaisir de parler de tout ça, de
Trop
revenir
bien.
là-dessus.
Bon bah cool, je pense que ça va pouvoir être très utile. Et merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié, bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Et vous pouvez évidemment vous procurer mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!